Aujourd'hui, on va parler du mercenariat et on a invité pour ça Xavier Renoux, l'auteur d'un livre qui s'appelle « La privatisation de la violence » qui est sorti au Dossier Noir, donc édité par Survie. Peut-être que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce livre et puis de du sujet global, de qu'est-ce qu'on entend par le mot de mercenariat.
La genèse de ce livre, « La privatisation de la violence », elle est diverse puisqu'il y a à la fois un travail de thèse consacré à l'extrême droite et en particulier à l'extrême droite en France, violente que représentait la filiation du mouvement Occident, du GUD, aujourd'hui les identitaires. Toute cette mouvance militante d'extrême droite qui a donné des dizaines et des dizaines de combattants pour le mercenariat de la France-Afrique. Donc en étudiant pour une thèse de sciences politiques le militantisme d'extrême droite de cette mouvance en gros néo-nazie de quartier riche, en gros c'est la différence avec les skinheads et ce qui les caractérise, j'en suis venu à la France-Afrique parce que une partie de ces militants s'engageaient régulièrement ou étaient engagés régulièrement par nos services secrets pour aller effectuer différentes tâches en Afrique au service de notre politique étrangère. Ça, c'est une première genèse. Une seconde genèse, c'est le fait que j'ai eu la chance, quand le service militaire était encore obligatoire, j'ai eu la chance d'y échapper et notamment de partir en coopération en Afrique du Sud et de faire une coopération qui n'était pas au service de la coopération française, mais qui était au service d'institutions noires sud-africaines, d'universités, dans lesquelles j'ai pu faire de la recherche et de l'enseignement. Et à ce moment-là, la fin des années 90, il y avait chercheurs américains qui travaillaient là-bas également et qui, eux, travaillaient, notamment un en particulier, Doug Brooks, qui travaillait sur la privatisation de la guerre et le développement des sociétés militaires privées. Donc, j'avais alors jamais entendu parler puisque le mercenariat français se limitait jusque-là à ce que l'on a appelé un peu les affreux sur le modèle de Bob Denard, donc plutôt une collection d'individus plus ou moins correctement formés, correctement armés, engagés à la façon de l'intérim ponctuellement pour des missions et dans lesquelles un certain nombre étaient originaires des milieux d'extrême droite. En Afrique du Sud, ces chercheurs américains apportaient la nouveauté américaine pour le coup, qui aujourd'hui s'est malheureusement répandue très largement autour de la planète, qui étaient les sociétés de mercenariat, les sociétés militaires privées. Et ces chercheurs-là étaient aussi de fiers défenseurs du néolibéralisme, donc de la régulation de nos sociétés par le marché, et considéraient que la privatisation de la guerre était une façon de réguler la violence, de réguler la guerre, de ramener la paix là où il y avait la guerre, et notamment dans des pays pauvres qu'ils disaient abandonnés des grandes puissances. On sait évidemment que loin d'être abandonnés, les pays pauvres sont bien plus dominés et agrippés par les pays dominants et non pas abandonnés, mais en tout cas ces chercheurs-là disaient que puisque les pays occidentaux abandonnaient à leur sort, à leur triste sort, les pays pauvres en proie à des guerres, il fallait confier à l'ONU le soin de ramener la paix en faisant appel à des boîtes de mercenariat qui, puisqu'il s'agissait de mercenaires, n'aurait aucun scrupule à intervenir et puis n'aurait aucun scrupule à quitter le lieu du conflit dès lors que leur contrat en serait achevé. Alors que quand on envoie une armée, c'est beaucoup plus compliqué de la faire partir, il y a plein de billets, etc. Donc ils étaient dans une logique d'application des théories néoclassiques, en fait, en économie, mais néolibérales, on dit dans le langage politique, de la régulation de tout par le marché. Le marché serait vertueux, un mécanisme vertueux et permettrait de réguler même la guerre.
D'accord.
Et alors, pour terminer cette genèse, pardon, j'ai commencé donc à m'effrayer, en fait, des arguments développés par ces chercheurs en Afrique du Sud et donc d'essayer d'en voir le contrepoint, d'en faire le contrepoint. Donc, j'ai travaillé avec eux, mais contre eux, là-bas. Et puis, quand je suis revenu en France, je m'attendais évidemment à ce que le modèle américain nous touche à son tour, puisque la France s'engageait dans le même type de politique économique, de dérégulation générale. Donc, on pouvait s'attendre s'attendre à ce que la guerre, la violence elle-même soit dérégulée à un moment. Et donc, je suis allé proposer à Survie, dont j'étais proche, d'y consacrer un dossier noir.
Tu peux nous brosser un peu une définition du mercenariat ?
Alors, la question de la définition, elle est au cœur de la problématique. Le mercenariat est aujourd'hui une pratique condamnée par les grands textes internationaux. Sauf que ça n'empêche pas du tout son développement, et pour cause, aujourd'hui, les mercenaires se prétendent tout sauf des mercenaires. Ils sont des conseillers, ils sont des collaborateurs, ils sont des techniciens, ils sont etc. etc. La différence n'est pas que polémique, elle résulte dans la modification de l'activité de la guerre. Autrefois, le mercenaire, c'était simplement un combattant qui se vendait au plus offrant. Il avait donc la caractéristique, on l'appelait d'ailleurs le soldat de fortune aussi, d'être un soldat temporaire, d'être quelqu'un qui pouvait se vendre à une puissance étrangère, mais toujours pour combattre. Aujourd'hui, la guerre s'étant sophistiquée, s'étant renforcée par des moyens technologiques sans précédent, on a aujourd'hui toute un très large éventail de métiers de la guerre qui ne sont pas tous liés directement au combat. Il y a évidemment le soldat en bout de chaîne qui tient le fusil ou le pilote qui appuie sur le bouton qui lance le missile, mais il y a toute une autre chaîne logistique qui est indispensable à la menée de la guerre, mais qui ne concerne pas des métiers directement liés au combat. Et c'est là que les nouveaux mercenaires interviennent, puisque à l'exception d'une poignée d'entre eux qui sont des combattants, enfin une poignée un peu plus, on les voit en Irak, on les voit surtout en Afghanistan, ils s'emploient surtout à des tâches de sécurisation de zones, de protection de sites industriels, pétroliers, etc., ou de gardes du corps lourdement armés, ou d'escorte de convois militaires, etc. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque au-delà de ces combattants mercenaires, il y a des ingénieurs, des cuisiniers, des plombiers, des constructeurs, des mécaniciens, des pilotes, des chauffeurs de poids lourds, qui sont tous, selon moi, des mercenaires, parce que ce sont des gens qui exercent ces métiers très ordinaires dans un contexte qui ne l'est pas du tout, le contexte d'une guerre, et qui les exercent, ces métiers, au service de la guerre. C'est-à-dire que le chauffeur de poids lourd transporte des armes ou du matériel, en tout cas nécessaire à l'activité de la base militaire américaine en Afghanistan ou en Irak. L'ingénieur, eh bien, il va apprendre à des militaires comment se servir des armes. Le mécanicien va réparer l'avion indispensable, etc. etc. Mais alors, évidemment, ce ne sont plus, au strict sens du terme, des combattants. Alors, évidemment, ils jouent sur cette ambiguïté pour dire « nous ne sommes pas des mercenaires ». C'est un peu tout ça l'enjeu de cette définition. Alors, on est en train aujourd'hui de voir se développer donc un mercenariat en entreprise, des entreprises de mercenariat. Ça, c'est relativement nouveau, ça vient des États-Unis, mais en fait, il y a eu une autre période dans l'histoire où on a vécu un petit peu ce phénomène, et c'était les compagnies de gouvernement. Et aujourd'hui, on a de plus en plus nos grandes puissances occidentales qui continuent d'avoir une politique étrangère coloniale, néocoloniale, impérialiste, appelez-les comme vous voulez, mais qui se fait par délégation au secteur privé. C'est vraiment l'objet du développement de ces sociétés militaires privées que de permettre la délégation du sale boulot, qui permet, quand les compagnies mercenaires font des bêtises, enfin, quand plutôt elles se font prendre à faire des bêtises, de nier toute responsabilité. C'est-à-dire que les Américains peuvent demander à des sociétés de mercenariat de gérer des prisons en Irak ou en Afghanistan, d'y effectuer des interrogatoires. Et quand on s'aperçoit qu'il y a eu de la torture de prisonniers, eh bien évidemment, les États-Unis disent « Ah ben non, nous, on a délégué à une entreprise, capillon sur rue, on lui a jamais demandé de torture. »
À vendre, mine d'or dans le désert, 2000 têtes pour 2000 tonnes à extraire, frais d'exploitation dérisoire, par employé, 10 grammes de pain plus au croupier à boire.
À vendre, sans plus attendre, parcelles de chair, tout type d'organes et de viscères, foie, cœur, globe oculaire, tout volume et tout âge, étiquetage mexicain, provenance colombienne, contacté en semaine,
9h20,
père et fils, grande boucherie humaine.
À vendre, viande
folle pour institut psychiatrique. Stock important, DMC périmé. Bonus, cervelle de veau, malade, faire vite. Des stockages rapides, appelés s'y intéresser.
Propose virus, gangrène en fœtus. Très actif dans l'eau de source plus. Cancer très rare, mélanine peau noire uniquement. Testé cliniquement, breveté, déposé.
Z pour presque rien.
Allez, 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 allez.
Bâtiment délabré, clim naturel. Termites et cafards pour voisins. Clandestin sans papier, 4000 francs la parcelle.
Promotion printemps, moins 20% sur nouveau réseau, cabaret thaïlandais. Privé et discret, grand choix d'autochtones. Jeune vierge et vieille cochonne. 7 jours, 7 nuits, hôtel repas compris. Départ Genève, Bruxelles ou Paris. Parrainer un ami et gagner. Ernest Satie, le bonus fidélité.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage. Urgent recherche, troupeau de sans-papiers parlant peu français. Sous arrêt d'expulsion, taillable et jetable. Jetable et taillable pour chantier grand stade en construction.
À vendre, petit nécessaire de torture. Fait ses preuves dans interrogatoire musclé. Vendu plus pater, pour chaîne au mur. Bonne affaire, notice, contrôle technique, ok.
À vendre, usine dégrossie, Istanbul, Turquie. Montage, atelier, électroménager.
Plus
1200 bras, rapport salaire français, 1 sur 23.
À vendre, stock bébé pour parents stériles, provenance tiers-monde, volé à famille en exil. Certificat médical, choix conséquent, garantie 2 ans, aucune facilité de paiement.
Société offshore, Luxembourg Nord propose gestion tout confort, transfert blanchiment argent sale, parfait idéal pour campagne électorale.
À vendre, uranium appauvri, prêt pour traitement, fourni avec plan bombe A, montant à débattre, premier prix 100 millions, remise 10% sur équipement de fonction.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Ça va être le développement des sociétés militaires privées. Ça va être le fait, la nécessité de gérer du capital, c'est-à-dire des expéditions mercenaires qui ont accès à beaucoup d'argent pour pouvoir se doter de l'équipement militaire de premier choix et de la main-d'œuvre militaire occidentale la mieux formée. Ça, c'est les Américains qui vont commencer à faire ça avec les Britanniques contre les Français, notamment au moment de la sortie de la guerre froide. Quand les Russes se retirent très rapidement du continent africain, les tensions internes au camp occidental vont s'intensifier. Les Américains qui avaient en quelque sorte délégué le boulot de contrôle du continent africain et de ses ressources et de blocus face aux Russes, reviennent. Les Américains reviennent en force en Afrique autour de 89, 90, 91. Et là, ils vont faire appel à des conseillers militaires et à des sociétés militaires privées de première classe. Les Britanniques, qui sont leurs alliés en Afrique, vont également faire cela. Et là, c'est la situation de l'Angola, de la Sierra Leone, du Liberia, où l'on va avoir notamment la première vraie société militaire privée moderne, Executive Outcome, formé de militaires de premier niveau, de premier rang, de l'ex-armée de l'apartheid en Afrique du Sud, des gens qui sont allés à l'école, qui sont allés se former aux États-Unis, en Grande-Bretagne, voire en France, et puis qui n'ont pas accepté le changement évidemment politique en Afrique du Sud, et qui donc sont allés vendre leurs services en formant une entreprise de mercenariat, Executive Outcome, qui va recevoir le concours d'actionnaires britanniques, d'actionnaires américains, et donc va pouvoir mobiliser non seulement beaucoup de mercenaires et beaucoup de mercenaires très bien formés, mais également un équipement militaire de premier niveau susceptible de gagner des guerres. Et donc, ils vont gagner des guerres en Sierra Leone, au Liberia, au service toujours des intérêts occidentaux. Ça, c'est vraiment le nouveau mercenariat qui arrive aujourd'hui, notamment Cette fameuse loi qui autorise les partenariats privés-publics ou publics-privés, PPP, qui vont permettre de créer des marchés pour l'émergence de sociétés militaires privées. On a en fait une évolution qui est assez intéressante parce qu'on a d'abord, je le disais, les sociétés de sécurité issues de l'extrême droite, en gros. Là, elles emploient des bras cassés, c'est les années 70. Et puis, dans les années 80, ça se modernise un petit peu. On n'est pas encore aux sociétés militaires privées. Et là, ce sont souvent des gendarmes ou des agents des services secrets qui vont créer des boîtes de recrutement de mercenaires, qui vont créer des sociétés un petit peu plus, un peu plus efficaces en termes militaires que les sociétés de sécurité. Je parle de Atlantic Intelligence, Groupe Baril Sécurité, SAS, Eric SA, etc. Ça, c'est surtout les années 80 et le début des années 90. Et puis, on va évoluer avec Geos, que j'ai déjà cité, mais qui va se professionnaliser, obtenir plus de capital. La Secopex. La Secopex, c'est la vraie première société militaire privée française parce qu'elle ne fait pas directement de combat. Elle est donc dans cette zone grise où officiellement on n'est pas dans la définition traditionnelle du mercenariat qui était celle du soldat de fortune, donc du gars payé pour porter un fusil. Non, la Secopex, elle va faire de ce qui est au cœur des sociétés militaires privées américaines, elle va être un force multiplier, un démultiplicateur de force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle mobilise, elle recrute des gens qui viennent des plus grandes, des meilleures armées du monde, donc les Russes, les Américains, les Britanniques, les Français. Et puis, elle va mettre ces gens-là, et surtout les Français, puisqu'elle est française, elle va mettre ces gens-là au service d'armées, de police, de services secrets, de pays plus pauvres, pour les amener au niveau auquel sont nos services secrets, nos armées, nos polices occidentales.
L'anniversaire aujourd'hui de la mort de Norbert Dangond, plus de 12 000 personnes qui sont...
Choix que d'affronter les airs s'emplissent de leurs meurtriers et leurs complices en pardon à l'improviste qui s'avère être un simulacre de réconciliation.
Le secret craint la lumière, l'ombre sous les écrits diffuse le mensonge, paix respect aux âmes privées de leur corps, enterrées à tort au cimetière par la raison du plus fort.
L'histoire elle est là, Norbert était là, plume de vérité qu'on a muté là, brûlé par le feu, éliminé là. Je veux qu'on me dise, fils Abili là. Pourquoi le tuer, pourquoi le buter, pourquoi le viser, pourquoi déguiser, pourquoi ne pas dire arrêtez de fuir, le dossier les gêne, à moi de l'ouvrir.
Nous rendons justice en parfaite impartialité, les coupables vont devoir payer. Il faut bannir impunité, défendre la vérité, Norbert savait la vérité.
Ils ont tiré sur mon père, ils ont voulu le faire taire. Tous ceux qui restaient ont classé le dossier, mais on ne va pas laisser faire. Ils peuvent nous mesurer tant qu'ils ne seront pas jugés. On ne va pas se
taire.
Réduit en cendres un 13 décembre, pas la moindre trace de vie, encore moins de chair morte dans un véhicule calciné. L'horreur est bien humaine, elle a le goût, elle a l'odeur, la texture d'une politique sans envergure, cravate, costard et pourriture.
Ils ont tiré sur Norbert, ils ont voulu le faire taire. Ils ont brûlé tout ce qui restait, ont classé le dossier. Mais on ne va pas se laisser faire, ils peuvent nous museler. Tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire.
Je suis la plume calcinée au détour d'une ville. Aujourd'hui ressuscité, le temps d'une vie. Je suis la voix menacée d'extinction à vie. Qu'attentat et confinement, nos guerres ramollies.
See them come, the devil disciples. Try to hide the truth from high. Les sorciers habitués à manger, mais l'os des zongos sera le dernier.
Ils ont tiré sur mon père, ils ont voulu le faire taire. Puis ont brûlé tous ceux qui restaient, ont classé le dossier. Mais on ne va pas laisser faire. Ne seront pas jugés, on ne va pas se taire.
Le contexte changeant, il est désormais nécessaire pour jouer dans la cour des grands et continuer à exploiter, ma foi, d'autres pays comme le font les Américains, les Britanniques. Il était nécessaire de donner un coup de boost à nos sociétés de mercenariat embryonnaires, les fameuses sociétés de sécurité dont je parlais tout à l'heure, les sociétés issues des gendarmes ou des barbouzes, Montoya, Baril et compagnie, que j'ai mentionné tout à l'heure, etc. Donc, pour ça, il fallait que des capitaux soient disponibles massivement pour ces sociétés et en toute légalité, parce que les services secrets, évidemment, peuvent financer des opérations, mais jusqu'à un certain prix, sinon ça se voit. Du coup, le fait de déléguer à des mercenaires quelque chose, c'est généralement parce qu'on ne veut pas en assumer la responsabilité, et si on est pris la main dans le sac en train de financer, évidemment, on se prend la responsabilité en pleine poire. Donc là, l'idée, c'est directement pouvoir dégager faire émerger des marchés suffisamment importants pour que se développent des vraies sociétés militaires privées. Aux États-Unis, le ministère de la Défense, chaque année, il emploie de l'ordre de 700 000 sous-traitants. Donc c'est colossal. Alors, ils ne sont pas tous des sociétés militaires privées. Il y a aussi des boîtes d'informatique, des ceci, des cela. Mais enfin, ça donne le niveau de sous-traitance de la première puissance militaire au monde. Il existe des sociétés militaires privées américaines, MPRI et d'autres. Il y a Blackwater, on a parlé, on aurait pu parler de Sandline autrefois, de DynCorp, j'ai parlé d'Halliburton, de Kellogg Brown & Root ou Brown & Root, etc. Il y en a un certain nombre. Elles sont disponibles et théoriquement, elles se vendent au plus offrant. La réalité, c'est qu'on est dans une sorte de marché de dupes parce que ces entreprises sont certes privées, mais dans les faits, elles sont toujours le prolongement des services secrets de leur pays. C'est-à-dire qu'elles n'ont de privé que les statuts et les capitaux, mais leurs vrais maîtres sont toujours les États. Sont toujours les États, et pas tous les États, mais les États les plus puissants du monde. On n'a pas le droit aujourd'hui dans notre système de rapport de force géopolitique, un acteur privé n'a pas le droit d'être indépendant. Non pas que je défende l'idée qu'un acteur privé militaire devienne indépendant, mais il faut se garder de cette illusion auto-entretenue par ces boîtes-là. Elles n'ont de privé que les statuts et les capitaux et les profits. En revanche, elles obéissent aux politiques étrangères de leur pays ou de pays de tutelle. Et pour MPRI, DynCorp et tout ça, c'est Halliburton et compagnie, ce sont les États-Unis. Et pour la CECOPEX, etc., ce sont les Français. Aux États-Unis, c'est particulièrement évident parce que les sociétés militaires privées américaines doivent demander l'autorisation formelle, c'est-à-dire le feu vert, du ministère de la Défense avant de signer le moindre contrat avec le moindre client.
Oh nana, yeah, nana, na, yes. Yeah, in the streets it's getting hot, and the youths them
searching for food for the pot, and they'll do anything to fill that gap. Lord, in the streets it's getting hot, and the youths them might get so cold. Searching for food for the pot, but they'll do anything to fill that gap. As generation comes and grows, you got to make preparation while the youths them grow. It's what you reap, it's what you sow. The youth them are the light and the future, so when that's them, you know.
If education is the key,
now tell me why the big heads are making it so expensive for we. Give them the key or set them free. In the streets it's getting hot, and the youths them are get so cold. Searching for food for the pot, where they do anything to fill that gap. Boy, in the streets it's getting hot, and the youths them I get so cold. Searching for food for the pot, where they do anything to fill that gap. Oh, na na na, yeah. A better way, cause when me look at Babylon, me see a beautiful play. I saw the Gideon say, yeah. Our nation come together, know the King's last year is the truth and the light and the way. He's the people, lead them in the right way. Cause in the streets it's getting hot, and the youths them I get so cold. Searching for food for the pot, they'll do anything to fill that gap. Boy, in the streets it's getting hot, and the youths them I get so cold. Searching for food for the pot, they'll do anything to fill that gap. Yeah. You got to show the people there's still a bright way. Yeah. I know for sure the sun will come out today. Vanities and illusions will have to fade away, yeah. And all the wicked deeds you done, I know you got to pay, yeah. Cause in the streets it's getting hot, and the youths them I get so cold. Searching for food for the pot, they'll do anything to fill that gap, yeah. In the streets it's getting hot, and the youths them I get so cold. Searching for food for the pot, they'll do anything to fill that gap. As generation comes and go, you got to make preparation while the youths them a grow. It's what you reap, it's what you sow. The youths them are the light and the future, let's send us them, you know. If education is the key, now tell me why the big heads they make it so expensive for we. And give them the key or set them free.